VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Soudan du Sud, plus de 170 personnes tuées en une semaine de combat entre clans rivaux qui s'affrontent à coups de mitrailleuse et de lance-grenades pour du bétail dans le centre du pays. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un élu local d'Aouaï Mabouteni, membre du Parlement de la région des Western Lakes, à 250 km au nord-ouest de la capitale Djouba. Selon lui, le nombre des blessés a atteint presque 200. Les combats opposent depuis le 6 décembre deux clans rivaux de l'ethnie Dinka, les Roup et les Pakam. Le gouvernement sud-soudanais a déclaré l'état d'urgence dans la région avec pour objectif de mettre fin aux violences, a déclaré le porte-parole présidentiel Ateni Wek Ateni, en soulignant que les civils étaient confinés dans leur domicile en raison des violents combats. Les communautés pastorales au Soudan du Sud mènent régulièrement des attaques pour voler du bétail et se livrer au pillage. Souvent, des femmes sont violées et des enfants enlevés, ce qui attise le cycle des représailles. En RDC, le verdict au procès du député provincial Frédéric Batoumité et ses 17 co-accusés poursuivis pour viol massif d'enfants est annoncé pour demain mercredi. Les prévenus sont jugés depuis le 9 novembre dans une juridiction militaire à Kavumu, près de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu dans l'est du pays. Le ministère public a requis hier des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité pour la majorité des inculpés, à l'exception de 4 accusés dont il a demandé l'acquittement. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Maître Charles Kubaka Chikura, porte-parole du collectif d'avocats qui représente les victimes. Rappelons que dans le village de Kavumu, proche du Rwanda, une quarantaine de fillettes âgées de 8 mois à 12 ans ont été enlevées et violées entre mai 2013 et 2016 et qu'au moins deux de ces enfants sont mortes, selon la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place. Les accusés sont soupçonnés d'appartenir à la milice armée de Jésus, dirigée par Frédéric Batoumité, député provincial du Sud Kivu. Le célèbre chirurgien congolais, Denis Mukwege, avait dénoncé en 2014 et 2015 cette vague d'enlèvements et de viols. Au Gabon, le parti présidentiel gabonais PDG a renouvelé une grande partie de ses responsables et a aussi interdit les courants politiques en son sein. C'était au cours d'un congrès ce week-end à Libreville, la capitale. Les délégués et militants du parti ont planché sur comment revitaliser et régénérer le PDG. Un pari gagné, nous dit le tout nouveau secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bougenza.
Nous sommes dans le principe de régénération et de revitalisation. Cela signifie simplement que de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire doivent pouvoir intégrer le corps fonctionnel de notre parti. Il y a des jeunes, il y a des femmes et puis il y a des camarades ayant une expérience, une expertise acquise en la chose politique afin de pouvoir encadrer ces jeunes pour la relève du Parti démocratique gabonais. L'enthousiasme exprimé par l'ensemble des militants prouve à suffisance que le parti n'a pas du tout souffert. Simplement, il fallait un coup de souffle pour pouvoir amener les militants à être conscientisés de l'intérêt de pouvoir se serrer les coudes et se serrer la main pour pouvoir donner une nouvelle vie à leur parti.
Eric Dodo Bougenza, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, joint à Libreville. Au Bénin, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, en visite officielle dans le pays lundi, a annoncé une prévision de croissance de 6% pour cet État de l'Afrique de l'Ouest lors d'une conférence de presse conjointe avec le président béninois Patrice Talon. Pour Christine Lagarde, le Bénin est un partenaire qui tient ses promesses. On l'écoute.
J'ai vu depuis 7 ans tant de programmes en dehors des clous, en retard, des actions ou des engagements non tenus qui nous amènent à retarder les réunions de conseil d'administration, à différer les déboursements, que là je me réjouis que les réalisations soient en place, grosso modo, et qu'on ait pu, dans les délais prévus, tenir le conseil d'administration et débourser la tranche de financement d'à peu près 22 millions de dollars. C'est ça le vrai bonus, c'est le respect des engagements de part et d'autre.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Lutte anticorruption, le gouvernement suisse va restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha, décédé en 1998. Après avoir restitué déjà 461 millions de dollars en 2005. L'ancien général avait transféré des sommes massives dans les banques helvétiques. Au total, la Suisse aura rendu plus de 1 milliard de dollars au Nigeria. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint l'ambassadeur Roberto Balzaretti, le conseiller juridique du ministère suisse des Affaires étrangères, qui a signé l'accord avec Aboubakar Malam, le ministre nigérian de la justice. Monsieur Balzaretti parle tout d'abord du rôle de supervision de la Banque mondiale dans la gestion des fonds restitués.
Alors, le rôle de la Banque mondiale est double, si vous voulez. La Banque mondiale conduit un grand projet avec le Nigeria, donc avec la participation financière du Nigeria. C'est un programme qui a pour but de distribuer des petites sommes d'argent aux couches les moins aisées, vraiment les super pauvres, les moins aisés de la population. Donc, il y a d'abord ce programme de la Banque mondiale auquel on s'accroche par cet accord-là. Ça, c'est la substance, si vous voulez. Et le deuxième rôle, qui est le rôle novateur de la Banque mondiale, c'est que, précisément parce qu'elle conduit ce programme, elle est en mesure d'assurer un monitoring, un suivi constant de l'utilisation des fonds qui sont rapatriés, parce que ces fonds sont justement utilisés pour financer une partie de ce programme. Donc, d'une part, elle amène, si vous voulez, la substance avec le gouvernement du Nigeria, et d'autre part, elle assure cette surveillance internationale de l'utilisation des fonds.
Est-ce qu'il y avait une certaine crainte, une certaine peur que ces fonds soient à nouveau détournés?
En fait, c'est pas qu'il y a une crainte. Le Nigeria est un partenaire tout à fait fiable et ce programme est un programme très, très sérieux. Mais de plus en plus, dans la restitution des fonds, d'argent mal acquis, illicitement acquis et placé dans les banques, surtout des pays occidentaux, on veut s'assurer que la restitution bénéficie proprement à la population. Et pour faire cela, nous recherchons les programmes qui sont faits pour les populations les moins aisées, d'entente avec les gouvernements qui reçoivent les fonds qui sont restitués, mais avec l'aide, le support et en quelque sorte la surveillance de partenaires neutres, encore mieux si ce sont des partenaires reconnus au plan international. Évidemment, ça rassure les opinions publiques, mais surtout, ça permet de remplir le but principal de la restitution, qui est précisément de ramener aux populations auxquelles l'argent a été volé à la base, cet argent dans des programmes bien fondés, bien construits et raisonnablement suivis.
Pensez-vous que ce programme puisse être dupliqué et servir à la restitution de fonds dans d'autres pays?
C'est en tout cas ce que nous souhaitons, de tous nos voeux. L'idée à la base de l'accord, c'est que le pays qui restitue et le pays qui reçoit puissent se mettre d'accord sur des programmes qui font du sens et d'assurer en même temps, par l'intermédiaire d'une instance internationale, si possible, cette fois-ci c'est la Banque mondiale, mais ça peut être d'autres banques régionales de développement, par exemple, que la restitution se fasse dans un cadre ordonné, suivi, avec un monitoring de l'utilisation des fonds.
Roberto Balzaretti, ambassadeur et conseiller juridique du ministère suisse des Affaires étrangères. Et pour terminer, ici aux États-Unis, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui dans l'Alabama après la fin de la campagne sénatoriale dans cet état du sud du pays. Le candidat républicain, l'ultra-conservateur Roy Moore, est accusé d'attouchement sur mineurs il y a plusieurs décennies, Morgan Guriek.
Les électeurs de l'Alabama sont appelés à élire au Sénat le remplaçant de Jeff Sessions, devenu ministre de la Justice. Roy Moore, un républicain, se dispute le fauteuil avec Doug Jones, un démocrate. Monsieur Moore est accusé par des femmes pour des faits remontant aux années 70 et 80, alors qu'elles étaient mineures. Il nie tout en bloc. Âgé de 70 ans, il a été réélu 2 fois président de la Cour suprême de l'Alabama. Il en a été déchu par 2 fois pour avoir refusé de retirer d'un palais de justice une statue en l'honneur des 10 commandements et pour avoir défié la Cour suprême des États-Unis en refusant d'appliquer sa décision sur le mariage homosexuel. Le président Trump a appelé hier les électeurs à voter pour Moore pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Le démocrate Doug Jones est un ancien procureur fédéral de 63 ans qui avait fait condamner des membres du Ku Klux Klan. Pour gagner, il devra mobiliser la base démocrate et la minorité noire. Mais sa position favorable au droit à l'avortement risque de ne pas faire recette dans cet État ultra-conservateur qui n'a pas élu de sénateur démocrate depuis 1992. Dans le même temps, le Parti républicain craint d'être sali par association si Roy Moore l'emporte. Et s'il perd, la majorité actuelle au Sénat, de 52 sièges sur 100, passera à 51, une marge de manœuvre extrêmement étroite.
Merci de votre attention.